J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Aléa. L'intelligence artificielle est à la fois une discipline scientifique qui s'intéresse à la nature de l'intelligence et à ses conditions de production et un problème d'ingénierie qui cherche à réaliser de manière automatique les tâches habituellement associées aux capacités cognitives de l'homme, comme la résolution de problèmes, la prise de décision et la reconnaissance de forme. Les tâches que l'on retrouve notamment dans les jeux de société. Les méthodes développées par l'informatique pour concevoir des joueurs artificiels nous permettent donc d'étudier, de mieux comprendre par un jeu de miroir nos propres capacités cognitives. Est-ce que nous nous inspirons de l'intelligence humaine pour concevoir ces joueurs artificiels, ou au contraire, est-ce que l'informatique a quelque chose à nous apprendre sur notre propre cerveau ? Pour aborder ces problèmes, ces questions, on peut notamment s'intéresser à l'histoire des programmes destinés aux jeux de stratégie combinatoire, comme les dames, le go ou les échecs. On peut ainsi suivre la progression de ces applications de l'intelligence artificielle au domaine du jeu, de la première génération de programmes qui a conduit en 1997 à la victoire de Deep Blue sur Kasparov, jusqu'au très récent AlphaGo qui a remporté en mai dernier un match contre Keiji, le champion du monde du jeu de go. L'histoire commence en 1928, lorsque John von Neumann démontre le théorème du minimax, aussi appelé « théorème fondamental de la théorie des jeux à deux joueurs ». Von Neumann démontre ici que dans le cas des jeux à information complète et à somme nulle, comme les échecs, il existe au moins une stratégie optimale, c'est-à-dire une stratégie qui permet aux joueurs d'obtenir à coup sûr le meilleur résultat. Ou on devrait plutôt dire le résultat le moins défavorable. En plus d'un résultat théorique qui assure l'existence d'une telle stratégie, le théorème du minimax offre un moyen sûr et simple de la construire, c'est-à-dire un moyen de jouer. Le moyen est simple, mais il est coûteux. Le joueur doit considérer, avant chacun de ses coups, l'intégralité de l'arbre des possibles. Si je joue A, mon adversaire pourra alors jouer B, C ou D. S'il joue B, alors je pourrai à mon tour jouer E ou F. Et si je choisis E, alors, etc. Jusqu'à arriver à une situation finale où le gain de la partie peut être évalué, c'est-à-dire une victoire, une défaite ou un match nul. Une fois que l'on a tracé l'arbre de tous les coups possibles et que l'on connaît donc toutes les issues possibles, il nous suffit de remonter cet arbre branche par branche, depuis ses nombreuses feuilles jusqu'à son tronc, depuis donc toutes les fins de partie jusqu'à l'état actuel de l'échiquier, en considérant à chaque ramification que notre adversaire fera lui aussi tout son possible pour ne pas perdre la partie. Ainsi, on fait en sorte qu'après notre coup, la meilleure option de l'adversaire soit la moins pire pour nous. On cherche à minimiser notre perte maximale, et c'est ce qu'on appelle donc l'algorithme du minimax. C'est finalement une démarche assez intuitive. Il s'agit simplement de calculer nos coups à l'avance et de supposer, ce faisant, que notre adversaire fera lui aussi le meilleur calcul. En vérité, c'est aussi la seule stratégie à laquelle on peut se fier lorsqu'on découvre pour la première fois un jeu de stratégie combinatoire. En l'absence d'expérience de jeu, de connaissances empiriques, il nous restera toujours le calcul. Et à ce titre, on pourrait dire que l'algorithme du minimax reproduit le raisonnement humain, en tout cas celui basé sur la logique la plus élémentaire. Et ce n'est pas très étonnant dans la mesure où l'informatique, qui est justement la science du calcul, s'appuie avant tout sur la logique, qui est un mode de raisonnement profondément humain. On peut remarquer, cela dit, que l'algorithme du minimax fait l'hypothèse d'un adversaire rationnel et indéfectible. Un adversaire qui utilise lui-même cet algorithme. Or, il est possible aux échecs de tendre des pièges, de bluffer son opposant, en pariant sur de potentielles erreurs de sa part pour jouer un coup qui ne serait pas optimal face à une machine, mais qui pourrait s'avérer avantageux si notre adversaire commet une erreur, s'il tombe dans le panneau. Parce qu'elle est le fruit du calcul et seulement du calcul, cette première approche ne peut pas s'échapper du paradigme de la rationalité. La démarche purement calculatoire n'a pas accès aux subtilités offertes par les dimensions psychologiques du jeu d'échecs. Cela dit, Avant de considérer ces aspects complexes de l'intelligence humaine, on remarque également que l'approche calculatoire souffre d'un défaut qui lui est bien plus fondamental. Si elle est théoriquement parfaite dans le royaume de la rationalité, elle est impossible à mettre en pratique. L'algorithme du minimax suppose en effet que l'on puisse étudier l'intégralité de l'arbre des possibles. Aux échecs, on compte en moyenne 35 ramifications par coup, soit 1200 ramifications une fois que l'adversaire a riposté, 1 500 000 après 4 coups, 2 milliards après 6 coups, puis très rapidement des chiffres qui dépassent l'entendement humain, mais aussi celui de la machine. Sachant qu'une partie d'échecs se joue en moyenne en 80 coups, il y a dans cet arbre des possibles autant de branches qu'il y aurait d'atomes dans un univers faisant 1 million de milliards de fois la taille de celui dans lequel nous habitons. On appelle ça l'explosion combinatoire. Ainsi, si l'algorithme de von Neumann offre un point de départ pertinent pour concevoir un joueur d'échecs artificiel, il n'y suffit pas. Même si les machines calculent bien plus rapidement et bien plus efficacement que nous, elles ne peuvent pas prétendre à une recherche exhaustive de l'arbre des possibles. Et pourtant, tous les coups ne semblent pas pertinents lorsqu'on explore cet arbre. De nombreuses branches sont évidemment désavantageuses et on n'a pas besoin d'en considérer les feuilles pour voir qu'elles mèneront probablement à notre perte. Par exemple, cette branche où l'on sacrifie bêtement Notre-Dame, ou celle-ci où l'on décide de ne jouer que les pions. Mais pour distinguer les mauvaises branches de celles qui sont viables, sans en regarder les feuilles, on ne peut pas se limiter au calcul. On doit se doter de règles empiriques, c'est-à-dire d'expériences de jeu, sur laquelle le calcul peut venir s'appuyer pour choisir une branche sans parcourir l'intégralité de l'arbre. C'est ce que l'on appelle la connaissance experte, une autre modalité de la cognition humaine que nous aborderons dans un prochain épisode.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Lui, c'est à ce côté loup-garou où on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu ! Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus.